Vous écoutez On lit pour vous.
Comment adapter sa maison pour y vivre longtemps? Un texte de Sophie Stival paru le 24 mai 2026 dans Bel Âge. Bien vieillir chez soi, c'est possible avec un peu de planification. Quels sont les coûts pour adapter sa demeure et la rendre sécuritaire et accessible? Conseils de pros pour créer un milieu de vie sécuritaire et fonctionnel sans rien sacrifier au style. Transformer sa résidence afin qu'elle soit sécuritaire et accessible avec l'âge est une étape très importante. Il est ici question de maintenir le plus longtemps possible son autonomie en prévenant les chutes, les accidents et bien sûr tout en retardant le moment où il faudra se tourner vers un hébergement spécialisé. Nous concevons des espaces qui permettent de se projeter dans le temps afin de vivre le plus confortablement possible dans sa maison en planifiant les changements qui peuvent survenir au fil des ans, explique Valérie Perrault, propriétaire de la firme SP, spécialisée en design intérieur, rénovation et transformation domiciliaire. Quels aménagements prioriser? Les modifications doivent s'harmoniser au logement en respectant certains principes. D'abord, en prévoyant des dégagements dans l'éventualité où on pourrait avoir à se déplacer, temporairement ou à long terme, avec un déambulateur ou un fauteuil roulant. On parle ici d'espacement entre le mobilier, les corridors ou les portes. Par exemple, on pourrait installer des charnières à grand dégagement aux portes afin d'élargir l'espace et de faciliter l'accès aux appareils d'aide à la mobilité. On éliminera aussi, autant que possible, les dénivellations ou les seuils entre les pièces afin de prévenir les chutes. Attention aux marches. Avec l'âge, les escaliers peuvent poser des défis et une bonne stratégie est de prioriser autant que possible le rez-de-chaussée. Déménager la salle de lavage du sous-sol au rez-de-chaussée ou même à l'étage, par exemple, fait en sorte qu'on passe moins de temps à monter et descendre avec un panier de linge dans les bras à une étape de la vie où on peut avoir des problèmes de faiblesse musculaire ou de mobilité. Quant au monte-escalier électrique, il s'avère utile pour les personnes dont la maladie ou les problèmes d'équilibre rendent la montée et la descente des marches dangereuses ou ardues. Il faut être cognitivement capable de le faire fonctionner, en plus d'avoir un bon tonus au niveau du tronc pour garder son équilibre lorsque le monte-escalier est en mouvement. À ce sujet, mieux vaut demander l'avis d'un professionnel, remarque l'ergothérapeute Audrey Fortin. Le prix dépend de la distance à parcourir et du type d'escalier, droit ou tournant. En fonction de ces critères, il faudra compter entre 5 000 et 15 000 $, voire beaucoup plus. Il y a aussi la possibilité d'installer une deuxième main courante dans l'escalier. Parfois, la personne va préférer avoir sa chambre à coucher au rez-de-chaussée dans le but d'éviter les coûts d'un monte-escalier, ajoute Audrey Fortin. Des planchers anti-glisse. Autre priorité. S'attarder aux planchers rendus glissants par la présence d'eau. Pensons à ceux du vestibule ou de la salle de bain où les matériaux antidérapants sont recommandés. Par exemple, on suggère de choisir de plus petits carreaux de céramique qui requièrent plus de coulis pour couvrir une même surface, la rendant ainsi plus sécuritaire, remarque Valérie Perrault. Un carrelage avec une surface rugueuse ou du relief augmente l'adhérence et réduit du même coup les risques de chute. On conseille généralement d'éviter les tapis pour ne pas s'y accrocher les pieds, mentionne Audrey Fortin. Autrement, il faut s'assurer qu'ils sont bien fixés ou collés et idéalement, on opte pour les tapis à poils courts. Zoom sur la salle de bain. En ce qui concerne l'aménagement de cette pièce, la douche est souvent privilégiée car elle permet de gagner de l'espace tout en étant plus sûre. La douche à l'italienne, plus grande, sans seuil et avec une légère pente, évite de devoir enjamber un rebord. C'est plus ergonomique et aussi plus design. On peut même y intégrer un banc, rappelle Valérie Perrault. Par ailleurs, un siège de transfert pour le bain et une poignée d'appui facilitent l'enjambement de la baignoire lorsqu'on veut prendre une douche en position assise. Dans le cas de la toilette, un rehausseur avec ou sans accoudoir permet de se relever plus facilement du siège. Il faut cependant veiller à ce que les adaptations soient adéquates et mises en place au bon moment afin de s'assurer que les mouvements représentent encore un petit défi, sinon la personne aura plus de mal à s'asseoir ou à se relever lorsqu'elle utilisera une salle de bain dans le cas d'une visite par exemple, prévient Audrey Fortin. Enfin, on opte pour un levier de chasse plutôt que des boutons poussoirs, parfois très petits et plus difficiles à actionner. Certaines personnes sont frileuses à l'idée d'installer des barres de soutien ou d'appui avant que cela devienne indispensable. Il suffit alors de prévoir, au moment de faire des travaux, des fonds de clouage fixés derrière les murs pour faciliter l'installation le moment venu. Bon à savoir, on peut trouver des barres d'appui au design recherchées qui peuvent être posées selon les besoins à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale. Les barres d'appui s'avèrent utiles pour les soins d'hygiène lorsque la personne est souvent seule et que l'eau rend les surfaces glissantes, souligne l'ergothérapeute. Elles permettent de bien utiliser ses membres supérieurs et sa force musculaire pour que les mouvements soient sécuritaires. Autre facteur à considérer, l'accessibilité de la salle de bain, surtout la nuit. Il suffit parfois de changer la configuration de la chambre à coucher en plaçant stratégiquement le lit afin de faciliter les déplacements qui devraient idéalement se faire en ligne droite. Vous écoutez « Comment adapter sa maison pour y vivre longtemps », un texte de Sophie Stival paru le 24 mai 2026 dans Bel Age. Les poignées à surveiller. Avec la perte de dextérité liée à l'arthrose, par exemple, la manipulation de certains modèles de poignées peut devenir difficile. Pour les portes, l'installation de poignées à levier ou bec de canne facilite la préhension en évitant les torsions et en réduisant l'effort requis. Qu'en est-il des meubles lavabos ou des armoires de cuisine? On évite les armoires sans poignées apparentes qu'il faut pincer avec les doigts, suggère Valérie Perrault, qui recommande de les remplacer par des modèles classiques plus faciles à manipuler, comme les poignées barres. Quant à l'aménagement de la cuisine, elle note que les tiroirs, très populaires dans les cuisines modernes, sont plus pratiques et faciles d'accès que les armoires, qui exigent que l'on se penche pour trouver ce que l'on cherche. Enfin, en plus de doter les portes extérieures et de garages de poignées ergonomiques, on peut aussi remplacer les serrures traditionnelles par des modèles intelligents permettant un accès sans clé. Lumière sur l'éclairage. Pour compenser la perte d'acuité visuelle et sécuriser les déplacements dans la maison, il est conseillé d'augmenter la luminosité dans les cages d'escalier, les corridors et les passages les plus utilisés, et de doter ces endroits d'interrupteurs accessibles, voire de veilleuses ou d'un éclairage automatique qui détecte les mouvements. Et attention aux chutes causées par les fils électriques, ceux des lampes, des ordinateurs ou de différents appareils, qui traînent et qui doivent plutôt être fixés au mur et sous les meubles. Une solution pour en éliminer, installer des lampes murales ou des luminaires encastrés au plafond. D'autres recommandations. Doter les zones d'ombre de lampes d'appoint, installer des veilleuses dans la chambre à coucher. Certains modèles détectent les mouvements. Enfin, une astuce, installer des bandes lumineuses d'ailes sous les armoires de cuisine et dans les garde-robes pour y voir clair. Vous aménagez votre maison? 4 étapes à suivre. 1. Faire appel à un ergothérapeute et un expert en rénovation, designer ou architecte. 2. Établir un budget et un échéancier tout en vérifiant si on a droit à de l'aide financière comme des crédits d'impôt, des subventions ou des prêts à taux réduit, par exemple avec Réno Climat. 3. concevoir un projet d'aménagement ergonomique et esthétique avec des espaces qui intègrent les adaptations domiciliaires proposées. 4. Planifier et amorcer les travaux en faisant appel à un entrepreneur licencié et qualifié qui détient une assurance responsabilité professionnelle et civile. Quels sont les coûts et l'aide financière disponibles? Il est possible de rentrer dans son argent même si on adapte son logement pour des raisons ergonomiques. À l'étape de la conception, le projet d'aménagement ne coûtera pas plus cher qu'un autre type de transformation domiciliaire, précise Valérie Perrault. Il sera simplement adapté aux besoins particuliers de la personne. En fonction de la valeur de sa propriété, on va établir le pourcentage qu'on veut investir dans sa cuisine ou sa salle de bain, tout en respectant des ratios. À la revente, on peut espérer récupérer entre 75 et 100 % du coût des travaux de rénovation d'une cuisine et d'une salle de bain, selon CAA Québec. Cela dit, il existe quelques programmes d'aide financière, dont le crédit d'impôt fédéral, non remboursable, pour accessibilité domiciliaire. Il vise à aider les aînés de 65 ans et plus et les personnes handicapées ayant assumé des dépenses admissibles afin d'améliorer la sécurité, l'accessibilité et la fonctionnalité de leur logement pour y vivre de manière plus autonome. En 2025, un résident du Québec pouvait réclamer un montant de dépenses admissibles d'au plus 20 000 pour une économie fiscale maximale de 2 422. Pensons ici aux coûts associés à l'achat et à l'installation de rampes d'accès pour un fauteuil roulant, une baignoire avec porte et des barres d'appui, ou encore à des travaux effectués par un électricien, un plombier, un architecte ou un charpentier. Au cours des dernières années, Valérie Perrault a constaté un engouement pour des logements où des parents et des enfants, et parfois des grands-parents, vivent ensemble tout en s'assurant que chacun conserve son intimité. Dans un tel cas, le crédit d'impôt fédéral remboursable pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles pourrait être attrayant. Il s'agit de créer un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible, un aîné de 65 ans et plus ou une personne majeure handicapée, d'habiter avec un proche admissible. On pourrait alors avoir droit à 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 pour un crédit maximal de 7 500. Plusieurs municipalités accordent des subventions pour des travaux de rénovation. C'est le cas du programme Rénoplex de la Ville de Montréal qui souhaite aider les propriétaires d'immeubles de 1 à 5 logements à se protéger, notamment des inondations lors de fortes pluies. Pour connaître les programmes spécifiques et les montants accordés, il suffit de communiquer avec le service de sa ville de résidence. C'était « Comment adapter sa maison pour y vivre longtemps » un texte de Sophie Stival, paru le 24 mai 2026 dans Bel Âge.
L'avenir est un choix. Un texte de Karel Méran, qui est président-directeur général de la Fondation familiale Trottier, voué à la promotion de la science, de l'environnement et de l'éducation et de la santé. Son texte est publié dans Le Devoir du 11 août 2026. En sous-titre, l'été 2026 est un autre de ces étés apocalyptiques qui sont devenus la norme. La crise climatique n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Citation. La présente année est probablement la plus plaisante de toutes celles qui nous restent. Fin de citation. Assis sur le bord d'un lac, bercé par le chant des huards, je lis ces lignes écrites par Nicolas Langelier au début de son essai titré « Ce qu'on trouve dans la cendre, méditation sur le sens et le courage dans un monde en effondrement ». Texte publié chez Atelier 10 en 2026. L'odeur de fumée est partout dans l'air. Le ciel est jaune. Au loin, les actionnaires des compagnies pétrolières encaissent les dividendes de la fin du monde. L'été 2026, c'est un autre de ces étés apocalyptiques qui sont devenus la norme. Au moment où j'écris ces lignes, la température de l'Arctique atteint les 32 degrés. 20 000 personnes sont mortes des suites de la pire canicule de l'histoire en Europe. Au plus fort des incendies sur ce continent, plus de 300 000 personnes étaient évacuées en France et en Espagne. On a parlé de la plus importante évacuation depuis la Seconde Guerre mondiale. En Amérique du Nord, on estime à 4 000 le nombre de décès liés à la pollution atmosphérique causée par les incendies de juillet. À l'échelle mondiale, ce sont 1,5 million de personnes qui mourront prématurément cette année en raison de la pollution de l'air due aux incendies. Un été normal qui vous est offert par l'industrie des énergies fossiles. Des milliards de dollars de profit, une terre brûlée. Sur profit. Le journal britannique The Guardian nous a appris au début du mois que, dans la foulée de la guerre d'Iran, les 8 plus grandes pétrolières au monde avaient engrangé près de 93 milliards de dollars de profit au deuxième trimestre de 2026, presque le double des bénéfices réalisés à la même période l'an dernier. Partout dans le monde, les appels au prélèvement d'un impôt spécial sur ces surprofits se multiplient. Bien que 66 % des Canadiens appuient l'idée, le gouvernement ignore cette possibilité. Au Canada, on estime que les 5 plus grandes pétrolières engrangeront des surprofits de 60 milliards en 2026. Ces profits proviennent des poches de gens ordinaires qui peinent à joindre les deux bouts. Ils remplissent directement les portefeuilles des actionnaires américains des grandes pétrolières canadiennes. Vous avez bien lu. Ce qu'on appelle l'industrie pétrolière canadienne est de propriété américaine à hauteur de 60 %. Malgré ses profits historiques, cette industrie, qui a de la cendre sur les mains, vous demande maintenant de financer son nouveau pipeline à même vos impôts. Ce que le gouvernement fédéral s'apprête à faire, le tout en prétendant défendre la souveraineté canadienne. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à penser qu'on nous prend pour des valises. Le gouvernement Carney a annoncé sa décision de financer un nouveau pipeline pour une quarantaine de milliards, en plus d'offrir 15 milliards en crédit d'impôt pour un projet de captation de carbone qui n'empêchera pas les émissions du secteur de continuer à croître. Facture totale, 55 milliards ou près de 2 000 $ par contribuable. Et ce n'est que le début. Rappelez-vous que le dernier pipeline à avoir été financé par le gouvernement fédéral devait nous coûter 7,4 milliards. La facture finale a été 4 fois plus élevée. Comme Canadien, vous aurez maintenant le privilège d'enrichir les actionnaires américains de l'industrie pétrolière de deux façons. À la pompe, et sur votre déclaration de revenus. Tout cela pendant que notre pays brûle. Les coûts au Canada, les profits aux États-Unis. C'est aussi ça, être le 51e État. Solution de rechange propre. L'industrie pétrolière et gazière met tout en œuvre pour poursuivre son expansion, peu importe les conséquences. Mais elle n'est plus maîtresse du jeu. Les véhicules électriques, qui représentent 4 % des ventes en 2020, ont atteint 25 % des parts de marché en 2025. L'énergie solaire, à elle seule, a fourni 75 % de l'augmentation de la production d'électricité dans le monde l'an dernier. Les plaques tectoniques sont en mouvement. Les solutions de rechange propre sont maintenant plus abordables et plus efficaces pour la plupart des usages, et elles prennent d'assaut les chasses gardées qui font la fortune des énergies fossiles depuis 2 siècles. Et elles ne sont pas vulnérables aux chocs géopolitiques. Comme le dit le grand écologiste Bill McKibben, la lumière du soleil parcourt 150 millions de kilomètres pour se rendre à la Terre. Aucun de ceux-ci ne passe par le détroit d'Ormuz. Les énergies propres portent en elles la promesse de sécurité et d'indépendance énergétique. L'expansion pétrolière et gazière n'est plus un besoin matériel. C'est un choix politique. L'industrie fossile le sait. Et c'est pourquoi elle investit massivement dans des campagnes de lobbying et de désinformation. L'industrie a tenu 1318 rencontres avec le gouvernement Carney dans sa première année au pouvoir. Un nombre sans précédent. À défaut de capter le carbone, elle a réussi à capter l'attention du gouvernement. L'industrie pétrolière roule à tombeau ouvert vers le précipice. Ce précipice sera le nôtre si le climat se dérègle irréversiblement parce qu'elle aura réussi à poursuivre son expansion avec ses efforts de désinformation et de lobbying. Mais ce précipice sera le sien si la demande de pétrole et de gaz s'effondre face à la croissance exponentielle des technologies propres. Entre ces deux scénarios, il y a nous. Pour la première fois, les solutions sont là, prêtes à être déployées. Nous avons à portée de main la promesse d'une énergie propre, abondante et abordable. La crise climatique n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Ce choix ne se fera pas derrière des portes closes. Le lobby le plus fort est celui des électeurs. Désormais, ceux qui brûlent la planète ne doivent plus être maîtres du jeu. Nous avons assez reculé. Il est grand temps de reprendre notre marche. L'avenir est un choix. Prenez la parole. Votez. Électrifiez l'avenir. Et c'est sur ces recommandations, pour ne pas dire des directives, que Karel Méran termine cette chronique titrée « L'avenir est un choix », publiée dans la section « Idées du devoir » du 11 août 2026.
Une enseignante de Winnipeg harcelée avec des images générées par l'IA. Un texte de Raoul Junior, leur fils, avec les informations de Santiago Arias Orozco, paru le 3 juillet 2026 dans Radio-Canada Info. Une enseignante de Winnipeg affirme avoir été harcelée pendant plus de 2 mois alors qu'elle effectuait un stage dans la division scolaire River East Transcona. La police indique qu'un adolescent de 17 ans a été arrêté et inculpé. Le stage d'une femme de Winnipeg s'est transformé en calvaire. Le 3 avril, peu après le début de son stage, elle a commencé à recevoir des messages à caractère sexuel explicite, dont les images d'elle-même nues, générées par l'intelligence artificielle. La femme devait terminer le stage avant d'obtenir son diplôme de la faculté d'éducation de l'Université de Winnipeg. Les messages venant d'une vingtaine de comptes Instagram inconnus se sont poursuivis jusqu'au 18 juin. Radio-Canada a accordé l'anonymat à l'enseignante parce qu'elle a été victime de harcèlement et qu'elle craint pour sa sécurité. « J'étais profondément dégoûtée, je me sentais violée », dit l'enseignante, victime de harcèlement. Même après qu'elle a porté plainte à la police, le harcèlement a persisté. Elle recevait des images de parties génitales masculines, des vidéos de masturbation masculine et des menaces de viol. Un nouveau compte la contactait chaque fois qu'elle en bloquait un. « Je me sentais vraiment mal dans ma peau. J'ai commencé à m'en vouloir, confie celle qui a dû désactiver ses comptes des réseaux sociaux pendant environ 2 semaines. Les messages ont repris peu après sa reconnexion à Instagram. Le plus dur, selon elle, a été d'être présente chaque jour, de faire bonne figure et de tenir le coup du mieux qu'elle le pouvait. Le choc après l'attente. Après des semaines d'attente, elle a finalement reçu des nouvelles des enquêteurs le 20 juin. La police l'a alors informée de l'arrestation de l'un de ses élèves. Le choc a vite déclassé le soulagement. « Je pensais qu'en découvrant son identité, je serais peut-être soulagée, mais c'était tout le contraire. » L'enseignante précise qu'elle voyait l'élève de 12e année tous les jours pendant son stage à l'école. « Le fait est que j'ai traité les élèves avec respect et gentillesse et c'est ainsi qu'ils me traitaient », s'indigne-t-elle. L'élève de 17 ans a été arrêté et placé en détention provisoire. Il est accusé de harcèlement criminel, de diffusion d'une image intime sans consentement, de méfait à l'égard des données et de production, d'impression, de publication ou de distribution de matériel obscène. Le service de police de Winnipeg n'a pas précisé s'il y avait d'autres victimes dans cette affaire, mais il encourage toute personne s'estimant victime de violence par diffusion d'images à le signaler. Un porte-parole de la division scolaire River East Transcona a affirmé que des mesures disciplinaires ont été mises en œuvre sans délai, mais n'a pas dévoilé d'autres détails. Toutefois, l'enseignante n'est pas satisfaite des sanctions infligées à l'accusé. Elle affirme être traumatisée, notamment après avoir déjà été victime d'un autre crime par le passé, soldé par le retrait d'accusation contre un autre jeune suspect. « Je doute que justice soit rendue cette fois-ci », affirme-t-elle. Elle invite les divisions scolaires à prendre beaucoup plus au sérieux les violences faites aux enseignants. « J'y penserai sans cesse. Est-ce que ça va se reproduire ?» dit-elle, ajoutant qu'elle commencera sa première année d'enseignement en septembre. Une montée de la violence envers le personnel enseignant. La doyenne de la faculté d'éducation de l'Université de Winnipeg, Laurie Ann Hairston, a fait savoir dans un communiqué que son département était attristé par les événements. Selon la Société des enseignants du Manitoba, de telles plaintes mettent en lumière des préoccupations plus générales dans les écoles publiques où le personnel enseignant fait face à une augmentation de la violence. Parallèlement, la police a observé une augmentation des signalements liés à l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle, notamment lorsque des images sont retouchées ou créées sans consentement. C'était une enseignante de Winnipeg harcelée avec des images générées par l'IA, un texte de Raoul Junior Lorfis avec les informations de Santiago Arias Orozco, paru le 3 juillet 2026 dans Radio-Canada Info.